Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur So Sweet Planet Marcia Burnier pour son premier roman Les Orageuses, paru dans la collection Sorcière de la maison d'édition Cambourakis. Bonjour Marcia.
Bonjour.
Alors, nous sommes en interview à distance, donc quelquefois, il faut un petit peu se caler, prévenir les auditeurs s'il y a des tout petits problèmes de son. Enfin, en général, ça se passe plutôt bien. Je vais lire, si tu veux bien, un petit extrait de la présentation qui figure sur la quatrième de couverture de ton livre pour que nos auditrices et auditeurs sachent tout de suite de quoi on parle. Et puis ensuite, je vais te demander de nous en parler un peu plus. Voilà. Les Orageuses racontent l'histoire d'une impossible réparation, celle d'une bande de filles ordinaires qui décident un jour de reprendre le contrôle de leur vie, ensemble, et de partir en quête de leur propre justice après avoir été violées. Après Bâtir aussi et On n'a que deux vies, Les Orageuses est une nouvelle création produite dans les marges féministes et queer de la société française contemporaine. Un texte profondément d'actualité dans un contexte de visibilisation des violences sexuelles, tout à la fois sensible et radical, qui dépeint des personnages de femmes se débattant avec leurs fantômes et leur vécu, mais se réparant collectivement. Alors, en fait, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai aimé son ton, j'ai aimé le fait que ça reflète très bien la génération à laquelle tu appartiens, enfin une partie de cette génération, peut-être pas toute la génération, mais en tout cas une partie. Et en fait, ce qui m'a amusée aussi, c'est qu'en le lisant, je me suis dit, ça vient flatter des instincts qui ne sont peut-être pas les plus élevés, en fait, mais il faut avouer qu'en tant que lectrice, on ressent quelque chose d'un peu jubilatoire à voir ces jeunes femmes décider de prendre en main d'une façon radicale quelque chose qu'on leur refuse partout, leur réparation. Et donc, j'aimerais bien savoir comment est né ce livre et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire. Parce que pour un premier roman, c'est quand même un sujet qui n'est pas anodin, qui est fort, qui est délicat aussi à traiter.
Je pense que j'avais envie de l'écrire, que l'idée d'écrire ce roman est venue, certes petit à petit, mais elle est venue de beaucoup de discussions que j'ai eues avec mes copines, de beaucoup de nos frustrations face à ce qui nous arrivait, beaucoup de désarroi. Je pense qu'il y a eu un moment donné où j'en avais marre de radoter une colère que je ne savais pas où mettre. Et il se trouve que moi, l'écriture, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et je crois que j'avais envie de donner un peu une place à toutes ces histoires, une place un peu privilégiée dans un livre qui est publié, etc. J'avais envie de leur donner une place, quoi, vraiment de les faire sortir des murmures qu'on se fait justement entre amis, des histoires qu'on se passe à l'oral entre copines. Voilà ce qui s'est passé, voilà, j'en ai trop marre, je sais pas quoi faire, etc. De toutes les choses que je voyais autour de moi. J'avais envie de les écrire et de les écrire sans censure, quoi, d'écrire vraiment qu'est-ce qui se passe quand on a été violé pour certaines d'entre nous et dans quel état la société nous laisse quand elle nous refuse toute possibilité de réparation. Je crois que ça venait d'un constat où j'en avais vraiment marre que la seule proposition qu'on me donne, c'était de payer cher des psychothérapies et de pardonner. Et ça, je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Moi, j'en avais marre qu'on me parle du pardon. Je voyais pas trop en quoi c'était intéressant pour moi, en fait, le pardon. Et d'ailleurs, ça semblait faire du bien à personne autour de moi. De toute façon, on n'arrivait absolument pas à pardonner. Pardonner quoi, pourquoi, qui. Et voilà, du coup, c'est né un peu de cette colère-là, de cette lassitude aussi de devoir expliquer tout le temps à l'entourage, aux gens que je croisais, etc., de devoir expliquer la colère, de devoir expliquer pourquoi ça va pas toujours bien, etc. Je me suis dit, bah, je vais tout mettre dans un livre. Et puis comme ça, voilà, après, ça sera plus simple. Tout le monde, enfin, les gens le liront et j'aurai moins besoin d'expliquer.
Et pourquoi ce titre ? Est-ce que ça vient de quelque chose de particulier ?
Je crois que c'est un titre vraiment très personnel. Moi, j'adore l'orage. Je trouve que c'est c'est vraiment un de mes phénomènes météorologiques préférés. C'est un moment où, du coup, le ciel est très chargé et il se décharge d'un coup de manière très puissante. C'est un peu la manière qu'a le ciel d'exploser son ras-le-bol presque, ou sa colère, voilà. Et je trouve qu'en plus, le sentiment qu'on peut avoir l'été quand le temps est très, très lourd et que tout d'un coup, l'orage arrive, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et c'est un très beau phénomène, c'est très puissant, c'est souvent très agréable à regarder et ouais, moi j'avais envie de les appeler comme ça quoi.
C'est électrique.
Oui, c'est électrique, ouais, exactement.
Donc c'est ton premier roman, mais si mes sources sont bonnes, tu écrivais déjà. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours ? Parce que si ce que j'ai lu est exact, c'est un parcours assez riche déjà et on comprend qu'il y a une telle densité dans ce premier roman en fait.
Ouais, du coup, moi, j'ai commencé à écrire de manière publique, disons, pas juste dans mon journal intime ou pour moi, en écrivant sur mon travail. Donc, à l'époque, j'étais assistante sociale dans un centre de santé pour migrants. Et c'était un peu la même démarche dans le sens où je crois que j'en avais marre des gens qui semblaient très étonnés de ce que je voyais au quotidien. J'avais envie de raconter qu'est-ce que c'était réellement la vie des personnes que je voyais, qu'est-ce que c'était réellement la vie d'une assistante sociale dans ce genre de centre, parce que c'était dur, je trouvais ça lourd, les situations que je voyais étaient lourdes. Et du coup, j'ai écrit un premier texte, un peu d'une traite, qui a été publié sur un site qui s'appelle Retard Magazine. Et puis, le texte a beaucoup tourné, il a été très... Enfin, du coup, j'ai reçu énormément de retours par rapport à ce texte-là. Et je crois que ça m'a mis le pied à l'étrier. Je me suis un peu dit genre, ah, mais en fait, c'est un bon moyen... d'écrire moi mon ras-le-bol, mais aussi du coup d'avoir des retours. Moi je trouve que c'est très... Il y a quelque chose quand on écrit sur des choses soit intimes, soit quand on écrit sur la colère, de se rendre compte que cette colère, elle provoque quelque chose. C'est vraiment, moi je trouve, très réparateur. Du coup j'ai continué à écrire pour Retard et j'écrivais ce qu'on appellerait aux États-Unis de la non-fiction. Je crois que maintenant on dit de la non-fiction en français. Et pour moi, c'est important de dire ça et pas de dire témoignage, parce que j'avais pas l'impression d'écrire du témoignage. J'avais l'impression d'écrire un texte littéraire. Il se trouve que ça parlait de moi, mais voilà, je trouvais important de faire cette différence-là. Et là, j'ai écrit sur beaucoup de choses. J'ai écrit sur la justice, j'ai écrit sur le coming out, j'ai écrit sur la confiance en soi. Enfin voilà, j'ai un peu écumé.
Et là, toujours sur ce même site.
Toujours sur ce site. Et ensuite. Je crois que je trouvais ça très chouette, mais j'avais envie d'écrire sur papier. Et j'avais lu le bouquin qui a été tiré de la thèse de Manon Labrie qui s'appelle Riot Girl, qui est sur le mouvement des Riot Girl aux États-Unis et qui parle beaucoup du mouvement des fanzines à l'époque. Donc des espèces de publications auto-éditées qu'on fabrique à la main, qui sont très simples à faire d'ailleurs. Et avec une copine qui écrivait, qui s'appelait Nelly, on a décidé de créer un zine. Et puis en fait, comme ça a bien marché, le premier numéro, on en a fait 16. On a fait 16 numéros en 3 ans, où non seulement on a mis nos textes à nous, mais aussi énormément de textes de gens qui nous envoyaient, en fait, voilà, qui nous faisaient des propositions. Les seules choses qu'on disait, c'était on voulait pas de texte théorique, pas de texte universitaire. Et on voulait pas d'hommes cis dans les auteurs et les autrices. Et ça a vraiment bien marché.
Pour nos amis qui nous suivent, mais sont pas forcément très au fait de tout ça.
Du coup, en gros, ça voulait dire que toute personne qui se définissait soit comme une femme, soit comme un homme trans, soit comme non-binaire, pouvait écrire dedans. Et en fait, ça a très... Ouais, vraiment, le fait que ça ait autant marché, je crois que ça m'a montré qu'on avait besoin d'endroits où publier des histoires qui étaient un petit peu différentes de ce qui était publié dans la plupart de la littérature française, disons. Je me suis rendu compte que énormément de gens autour de moi écrivaient de manière, de qualité. Et donc j'ai un peu investi ce domaine-là. Donc on a fait ça. Du coup, avec cette même équipe, on
s'est... Et là, c'était où?
Ça, c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est un
non, mais c'était en France ou...
Ah oui, c'est toujours à Paris, ouais. C'était dans ma chambre, précisément. Et ouais, ça s'appelait « It's been lovely, but I have to scream now ». Et je pense que ça décrivait bien ce qu'on avait envie de faire, quoi. C'était vraiment bon. Là, ça va, mais maintenant, on a vraiment envie de crier. Et je crois que ça a été un terrain très riche d'expérimentation littéraire. Moi, j'ai pu faire de la poésie, écrire un tout petit peu de fiction, beaucoup de non-fiction. Les gens étaient très motivés. On a fait des résidences d'écriture, du coup, pour se motiver, etc. Et ça m'a un peu donné la confiance, je crois. Ça, c'était bien. J'avais besoin d'être rassurée là-dessus. Rassurée sur le fait que j'avais le droit d'écrire, que j'avais le droit d'écrire sur ce sujet-là.
Et puis que ça touchait
oui.
du monde.
Oui, ouais, ouais, exactement.
Que tant que tu restes dans ta chambre et que ça ne sort pas de là, c'est sûr que ben c'est ouais. plus difficile de savoir si
c'est intéressant, si ça touche, exactement. Et donc, je pense que j'ai commencé comme ça. Et donc, quand je suis arrivée à l'écriture du roman, j'avais déjà écumé pas mal d'écriture personnelle. Du coup, j'étais assez à l'aise avec l'idée de faire un roman à la troisième personne qui était un peu plus... un tout petit peu plus éloigné de moi, quoi, où je prenais plus de liberté sur le déroulé de l'histoire et où j'avais... Je crois que c'était un moment où j'avais vraiment envie d'explorer la fiction. Et oui. C'était très chouette d'arriver là, quoi.
Mais en fait, je pensais, en te posant la question, surtout à ton parcours géographique et ton parcours oui. d'études. Parce que j'ai trouvé que c'était riche et dense et que ça a amené cette ouverture qu'on sent dans ton... ça explose les formats, ça explose certaines limites, certaines barrières qui sont aussi pas mal explosées par ta génération dans différents domaines, hein, que ce soit par rapport en ce moment au climat, par rapport à toutes les luttes décoloniales, par rapport au... En fait, ça devient intersectionnel et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans tout ça. Mais j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots de ce parcours depuis où tu es née et puis ensuite géographiquement, ce qui fait que tu t'es nourrie aussi de différentes choses et pas juste de la littérature d'ici non plus.
Ah oui, bah, du coup, effectivement, ouais. Donc moi, je suis née à Genève, en Suisse. Mais j'ai grandi en Haute-Savoie, donc à la frontière, dans un tout petit village, vraiment minuscule, dont je tairai le nom. Mais j'ai grandi là-bas et j'ai eu hâte de partir à 17 ans et demi. Quoi. Je suis partie dès que ça a été possible de partir. Je suis d'abord partie à Grenoble, puis ensuite je suis partie à Lyon. Et là, j'ai fait une licence en cinéma et photographie, mais je crois que ça... C'était pas encore assez satisfaisant pour moi comme découverte. J'avais envie d'aller plus loin et j'ai eu de la chance. J'ai été prise pour un échange aux États-Unis à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas. Il y avait des bourses de Rhône-Alpes qui envoyaient des étudiants loin, et donc j'ai été prise à Philadelphie. Donc j'ai fait un an à Philadelphie où là, moi, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. J'avais une liberté sur les cours que je pouvais prendre qui était presque totale.
Toujours en cinéma photo.
Oui, ou... alors du coup, je faisais cinéma photo, mais bon, là-bas, j'ai pu prendre des cours beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus peut-être politisés presque que ce que j'avais en France. Il y avait des cours très spécifiques sur, par exemple, moi, j'avais pris un cours sur le cinéma des Balkans. Il y avait, voilà, des cours qui allaient nous faire réfléchir un petit peu plus loin que la théorie générale du cinéma que je pouvais apprendre. Et puis, je suis revenue. J'ai décidé de m'inscrire à l'université pour un master à Paris. Je crois que je savais pas bien ce que je voulais faire. Et comme c'était un master en études de médias, disons. Et comme je m'ennuyais un peu, j'ai vu que c'était possible de repartir. Et j'ai eu la chance à nouveau d'être prise, cette fois à Concordia, à Montréal. Et là, par contre, ça a été vraiment un changement radical dans la manière d'enseigner, dans le contenu. Donc Concordia, c'est... Comparé en tout cas aux universités françaises, c'est une université assez pointue sur la question justement féminisme, décolonial, etc. Alors les gens qui sont de Montréal lui trouveront sûrement beaucoup de défauts, mais en tout cas pour une étudiante française, moi Concordia ça m'a fait un peu un électrochoc parce que c'était la première fois qu'on mettait des mots très clairs sur les identités, qu'on parlait de personnes blanches, de personnes racisées, de sexisme systémique, d'oppression systémique, etc. Et du coup j'ai vécu cette année-là comme vraiment une petite révolution, je crois, personnelle. Mais à l'époque, je pense que j'écrivais très peu. C'était une révolution plutôt intellectuelle, entre guillemets. Je suis rentrée en France, je crois que ça m'a donné envie d'être militante. Mais voilà, je crois que c'était un peu mes premiers pas dans le féminisme un tout petit peu plus réfléchi que ce que j'avais fait avant, quoi, qui me faisait un peu réfléchir oui. aussi sur ma place en tant que femme blanche, ma place en tant que femme cis, etc. C'était vraiment, vraiment très chouette.
Donc, pour revenir maintenant à ce premier roman, Les Orageuses, donc le sujet, c'est un sujet sensible, délicat, violent aussi. Et je trouve que tu restitues habilement la complexité de ce sujet. Et je me demandais qu'est-ce qui te tenait à cœur, en fait, d'exprimer et qu'est-ce que tu voulais éviter ? Parce qu'on sent que tu navigues, c'est très précis quand même.
Ouais, moi j'avais un cahier des charges dans ma tête que je m'étais imposé à moi-même, assez, pas lourd, mais en tout cas très précis. Donc la première chose, c'est que j'avais vraiment à cœur d'être dans le plus possible de la vérité, entre guillemets, ou en tout cas du crédible. Ça m'intéressait de ne pas trop enrober la réalité, mais de pas non plus créer des héroïnes super, bah justement des super héroïnes ou des super guerrières. Je pense que j'avais vraiment envie de rendre compte de la fatigue et de l'énergie qui manque et de tout ce qui peut empêcher des personnes victimes de viol à agir, en fait. Je pense que j'avais pas envie de donner une mauvaise idée en disant, ben voilà, la solution c'est la vengeance et on va tout s'y mettre. Je pense que voilà, je trouvais que c'était important de vraiment arriver à ne pas donner un mode d'emploi, mais d'expliquer que à un moment donné, on sait plus trop quoi faire et on essaye de chercher des solutions un peu partout. Donc je crois déjà ça, c'était important pour moi. Et ça a été nourri par toutes les discussions que j'ai pu avoir avec mes copines, en fait. Ça, vraiment, avec le travail que je fais, enfin, tout ça. Et puis, je crois un autre élément de ce cahier des charges, c'est que je voulais éviter à tout prix les descriptions de viols très détaillées. Je trouvais que ça, c'était vraiment quelque chose qui revenait dans des romans qui me fatiguent énormément. J'ai du mal à comprendre la nécessité de ces scènes-là, souvent. Je trouve qu'elles sont à la limite, voire elles dépassent la limite du voyeurisme. En vrai, je trouvais que c'était un bon moyen de dire aux lecteurs et aux lectrices, il va falloir les croire sur parole. Je vais pas vous donner le détail. En fait, ça ne devrait pas vous intéresser. Ce qui s'est exactement passé quand elle était petite ou avec telle personne ou avec tel truc. C'est pas ça que vous devez savoir, parce que c'est pas à vous de juger si c'est grave ou si c'est pas grave. C'est pas à vous de juger si c'est un viol ou si c'est pas un viol. Elle vous le dit. Voilà, les personnages, elles le disent, qu'elles ont été traumatisées. Elles le disent que ça a été une agression ou un viol. Et je pense que ça doit suffire au lecteur ou à la lectrice. Je pense qu'il faut s'habituer de plus en plus à arrêter de vouloir demander des détails exactement sur ce qui s'est passé pour se faire une idée. Voilà, je pense que c'est vraiment important.
Oui, est-ce que c'est juste pour se faire une idée ou est-ce que c'est pas, il n'y a pas d'autre chose quand les gens veulent savoir plus, justement ?
Bah, je pense qu'il y a une telle présomption de mensonge oui, c'est ça. Constante.
Donc c'est un peu malsain de vouloir toujours en savoir plus, de vouloir que la personne se justifie, de vouloir se convaincre soi-même que ce qu'elle dit est vrai.
Alors ça, je pense que c'est sûr qu'il y a ça, qu'il y a aller trouver la chose qui ferait que au final on considère que bah c'est peut-être pas si vrai que ça ce qu'elle dit, d'aller chercher au plus profond du récit la chose qui ferait qu'elle se contredit ou que si ou que ça. Après, je pense qu'il y a aussi un petit côté voyeuriste sur les scènes de viol. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Je pense que il y a quelque chose de fascinant, des fois, dans certaines scènes qui ont été écrites, que je trouve, pour moi, très malsaines. Voilà, j'ai vraiment pas envie d'écrire ça. Par ailleurs, j'aurais pas eu envie de les écrire, quoi. J'ai pas envie de les lire, mais j'ai clairement pas envie de les écrire. Et donc, oui, ça, je trouvais que c'était important. Et je pense aussi que, des fois... Alors, je dis pas que le livre est facile à lire, et d'autant plus si on est victime de viol. Je dis pas du tout qu'il va pas déclencher, qu'il est pas difficile, etc. Mais par contre, je voulais pas que ce genre de scène soit un obstacle à la lecture pour des personnes qui ont été victimes. Parce que moi, je sais que quand je lis certains livres où il y a des descriptions très, très avancées, j'ai l'impression que ce livre, il n'a pas été écrit pour moi. Et qu'il a été écrit pour quelqu'un à qui on doit encore prouver que c'est vraiment atroce, le viol. Et d'ailleurs, on va vous le montrer en décrivant des choses vraiment horribles. Parce que au cas où, il y a eu un doute. Et voilà, moi, je me disais, non, mais ça, je crois que j'ai vraiment pas envie, quoi.
Et je crois que toi, tu as fréquenté des salles d'audience, non, à une époque ?
Ouais, alors pour des raisons personnelles, je me suis retrouvée à devoir aller dans des audiences, à devoir... En fait, l'idée des audiences en correctionnel, on ne sait pas toujours, mais c'est qu'il y a énormément d'affaires qui passent le même jour. Donc, on est convoqué, ou en tout cas, l'affaire pour laquelle on vient est, par exemple, à 14h. Mais on ne sait pas à quelle heure elle va passer. Et du coup, on se retrouve souvent à assister à un nombre d'affaires incalculables tant que l'affaire pour laquelle on vient passe. Et donc, j'ai, au fil des affaires que j'ai dû suivre, j'ai vu énormément d'audience. Mais c'était très intéressant, hein, je ne regrette pas du tout. Mais je pense même que c'est quelque chose qu'on devrait toutes et tous faire à un moment donné, se rendre compte de qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce que c'est de rendre justice. Il se trouve que j'ai aussi assisté à un procès aux assises pour viol, que j'ai trouvé très intéressant. Enfin, c'était très lourd parce qu'il se trouve que je connais la victime, mais en même temps, c'était très éclairant sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va décider des jurés. Voilà. Et c'est vrai que sur les correctionnels, moi, j'ai vu des trucs... Je me suis toujours dit que si, quand on raconte, les gens nous croient pas. Parce qu'il y a quand même encore cette présomption que la justice en France, elle fonctionne bien. Et c'est vrai que... Non, moi, je trouve que c'est une catastrophe. Ouais.
Et toutes les affaires que tu as pu observer, c'était toujours par rapport à des violences sexuelles ?
Non, pas du tout. Donc, comme moi, je sais pas, quand j'arrive à 14h, il va y avoir un certain nombre d'affaires du vol de parfum à Sephora, à la vente de barrettes de shit, à la violence conjugale. Et en fait, tout le monde est mélangé, les gens se défilent les uns après les autres. Et on n'a pas les verdicts tout de suite. Si on veut avoir les verdicts, en général, il faut revenir une fois d'après pour voir. Les verdicts, ils se disent en début de séance pour des affaires qui sont déjà passées. Et ouais, du coup, ça veut dire qu'on passe dans la même salle et dans la même journée et même dans la même heure. On va avoir des délits qu'on ne comprend même pas pourquoi la personne est là, qui vont être jugés. Franchement, moi, pour les histoires de cannabis, j'ai vu des jugements qui étaient hallucinants. Des jugements où je ne pouvais pas croire qu'il s'agissait de réparation, justement, ou de protection de la société. Qu'on était vraiment dans une justice punitive, par ailleurs, très, très, très orientée sur le racisme. Moi, je n'ai pas vu de blanc à la barre pour des barrettes de shit. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très racialisé. Et tout d'un coup, on va avoir au détour de ça un homme qui comparait... alors moi, celle qui m'a marquée, je crois que je l'ai décrit dans le livre, c'est un homme qui comparaissait parce qu'il avait claqué sa portière de voiture sur la jambe de son ex-conjointe à plusieurs reprises et qui maintenait que c'était pas de sa faute, qu'il n'avait pas fait exprès. Et je me souviens parce que l'avocat de la partie civile, donc la dame, disait « Mais enfin, il y a quand même... des témoignages de vos enfants qui disent que vous êtes violent envers votre femme. Vos enfants ne veulent plus vous voir. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ?» Et il avait balayé ça, l'accusé, en disant « Non, mais ça, c'est la mère qui invente, c'est la mère, voilà. » Et je m'étais dit « Ça, c'est sûr qu'il va être condamné. » Et en fait, pas du tout. Le juge avait trouvé qu'effectivement, c'était un petit peu tiré par les cheveux et que bon, il avait peut-être pas fait exprès et il était reparti complètement libre. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce traitement préféré ? Alors, du coup, il vaut mieux frapper sa femme que de vendre une barrette de shit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À quel moment on peut nous vendre que ça, c'est une justice qui répare ? Enfin, ouais, ça me semblait complètement fou.
C'est intéressant parce qu'on voit bien que ta propre vie t'a permis d'avoir différents angles de vue.
Ouais.
Finalement, d'une situation, de choses que tu décris. On va parler d'un autre angle encore que tu abordes, que j'ai trouvé vraiment intéressant un petit peu plus loin. Tu écris au début du récit, au milieu du dîner, Mia a la tête qui tourne, un mélange de bière pas chère et d'émotion. Faudrait pas être trop heureuse d'un coup, comme dirait sa grand-mère. Elle prend le temps de bien les regarder toutes, sorcières, mes sœurs, ses vengeresses, pétroleuses, prêtresses, toutes un peu abîmées, mais qui ont réussi à se rafistoler comme elles pouvaient. Elle a une bouffée d'amour avant la violence et elle les regarde comme si elle regardait sa famille, Nina, Lila, Inès, Léo et Louise, qui sont la bande de filles du livre. Ces jeunes femmes vont entreprendre donc un cheminement pour affirmer le respect de leur propre vie, elles-mêmes vis-à-vis de leur vie, et pour avoir le courage de faire respecter leur vie. Et on comprend bien que l'un ne va pas sans l'autre, en fait, au travers des différents profils. Est-ce que tu as eu des réactions de lectrices sur ce sujet ? Est-ce que de lire ces récits de libération en fiction a déclenché des libérations dans le monde réel ?
Je pense que c'est une des plus grosses surprises, je ne sais pas si c'est le mot, parce que je crois que j'espérais un peu secrètement que ça soit le cas, mais en tout cas, j'ai eu énormément de retours de la part de lectrices, et je pense que ça, c'est... Par ailleurs, de manière assez égoïste, ça contribue aussi à ma réparation, ça c'est sûr. Mais oui, j'ai eu des messages, que ça soit d'inconnus ou de gens de ma famille, de vieilles copines de ma maman. Enfin voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de messages très, très, très touchés de gens qui me disaient que ça leur avait débloqué quelque chose. Je pense que les autres histoires qui m'ont, moi, émue, c'est que autour de moi, j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire que leur entourage avait lu le livre et qui étaient venus leur parler, étaient venus s'excuser, étaient venus leur dire qu'ils n'avaient jamais réussi à comprendre ce qui s'était passé et que maintenant, ils avaient l'impression de comprendre mieux et ils avaient l'impression de ne pas avoir été à la hauteur à ce moment-là, mais que ça changeait. Et ça, j'en ai eu beaucoup de messages comme ça. Et ça aussi, je pense qu'il y avait quelque chose, ça que j'avais sous-estimé sur le pouvoir transformateur de mettre des mots et du coup de passer par cet intermédiaire-là de la littérature pour pouvoir comprendre ce que son amie, sa cousine, sa sœur passe, quoi.
Et comme quoi ta fiction est vraiment empreinte de réel,
oui,
pour que ça puisse toucher comme ça les vies à ce point de personnes qui ont vécu ça et qui... peut-être avaient besoin d'un petit déclic, soit elles-mêmes, si elles l'ont vécu, soit par rapport à leurs proches. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est magnifique.
Bah, moi, je crois que c'est un truc auquel c'est inespéré, quoi, de pouvoir, même si c'est que 10 personnes dans toute la France, je suis absolument ravie que ça ait pu débloquer des situations d'un coup. Moi, personnellement, moi, j'ai mon père qui m'a appelé après avoir lu le livre. Pour me dire des choses très très chouettes, alors qu'on n'avait jamais jamais parlé de ce sujet auparavant. Et ouais, du coup, je me dis, bon, c'est un bon moyen, voilà, de déclencher les conversations.
Page 46, Lucie cite Mia et dit « On ne dit pas vengeance », lui avait dit Mia, « c'est pas la même chose. Là, on se répare, on se rend justice parce que personne d'autre n'est disposé à le faire. » Lucie n'avait pas été très convaincue par le choix du mot, mais ça ne changeait pas grand-chose. Cette nuance, elle revient souvent dans le livre et c'est vrai que c'est délicat parce que dire que la vengeance amène à la réparation, ce serait un peu simpliste et ce serait un peu comme une invitation à la violence. Mais le fait que ce soit en fiction, en fait, j'ai trouvé que ça permettait bien de traduire l'importance d'une mise en mouvement profonde, radicale, concrète pour dire stop. Et que toute cette histoire, finalement, ça le traduisait bien. Est-ce que c'était vraiment ton souhait de faire ce parallèle entre...
Oui, je pense qu'il y avait ça, il y avait... Il y a plusieurs choses qui se logent à cet endroit-là. Je pense que la première chose, c'est mettre un petit peu les gens face à la question de toute la violence qu'on se prend et qu'on subit, à un moment donné, il faut qu'elle ressorte. Et on ne peut pas attendre des gens qui se prennent de la violence, soit de manière systémique, soit des agressions, etc., qu'elles digèrent cette violence et qu'elles ne ressortent jamais. Je pense que ça, c'est illusoire et qu'à un moment donné... Mettre en scène des espèces de vengeance comme ça, c'est aussi mettre en lumière ça, de dire mais à un moment donné, on peut pas attendre de nous qu'on reste calme, qu'on digère tranquillement ce qui s'est passé et qu'on passe à autre chose. Donc ça, c'était déjà important. La deuxième chose, et là je vais peut-être spoiler un petit peu un bout du livre, mais c'est aussi que elles se réparent pas forcément avec leur propre vengeance. Il y a des filles qui vont pas réussir pour plein de raisons. Et le fait d'avoir fait quand même quelque chose de collectif, d'avoir agi pour les autres, les répare elle-même. Donc ça, je pense, j'avais vraiment envie que ça soit ça, que ce soit pas juste, tout le monde va avoir son propre type de vengeance et ça va être comme ça. Elles arrivent à montrer que, en fait, c'est le collectif qui les répare. C'est ce lien qu'elles ont entre elles, c'est cette sororité-là, plus que la réelle violence de ce qu'elles vont faire. Et puis, la troisième chose que je trouvais important de mettre en lumière, c'est vraiment cette notion de dans le cadre, et je pense dans le cadre d'autres choses, mais en tout cas dans le cadre d'un viol, il y a une rupture très forte qui est faite, pour la plupart des victimes, il y a une rupture assez forte qui est faite dans l'existence. Il y a un avant et un après. Pour le violeur, il y en a rarement. Et cette dissymétrie, cette absence de réciprocité, elle cause énormément de mal. Il y a beaucoup, beaucoup de victimes qui disent « Mais moi, je n'en peux plus de le voir continuer à vivre sa vie. » comme si de rien n'était, alors que moi, je suis bloquée au même endroit, moi, je dépense un fric fou pour des thérapies, j'arrive pas à me lever le matin, j'en peux plus. Et ça, c'est le comble de l'injustice. Et c'est pas tant « je veux absolument qu'il soit en prison » ou « je veux absolument qu'il souffre », c'est que cette rupture-là, elle est pas partagée. Et que du coup, elle s'applique à trouver des moyens pour qu'il y ait aussi un avant et un après chez l'autre, qui sera évidemment moins dur, moins compliqué, mais en tout cas qui existe. Que l'événement du viol, il existe aussi dans la vie du violeur. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Moi, Il y avait un podcast sur, il me semble, France Culture, sur les hommes violents, il y a quelques mois de ça, qui avait été diffusé. Et il y a un agresseur qui parle, c'est une victime qui lui dit qu'il a été violent avec elle, donc c'était une histoire de violence conjugale. Et lui, il dit « je ne m'en rappelle pas ». Donc, pour lui, c'est justement pas un événement. Alors, peut-être que ça l'arrange de dire qu'il ne s'en rappelle pas. Mais je pense profondément, avec les discussions que j'ai pu avoir avec mes amis, hommes, etc., que ça ne les marque pas.
Ah non, ouais. Parce qu'il n'y a pas de traumatisme.
Non, il n'y a pas de traumatisme.
C'est la fille exactement. Qui subit le traumatisme. Oui.
Et je pense que voilà, ça, elle s'applique aussi à réparer ça, cette petite asymétrie. Quoi.
Et tu évoques le fait aussi que souvent, lorsqu'une femme subit une violence sexuelle, pour diverses raisons, il faut mettre ça sous le tapis et que ça peut durer des années. Et on le voit au travers de tes personnages. Chez certaines, c'est assez récent. D'autres, c'est enfoui depuis longtemps. C'est aussi quelque chose dont on parle peu.
Oui, je pense que le silence est très, très imposant sur ces questions. Alors, il est encore plus imposant sur la question de l'inceste. Quand on sait que les chiffres de l'inceste, on dit sur une classe de primaire, en général, il y a 3 enfants statistiquement qui sont victimes d'inceste sur tous les élèves. Donc, c'est énorme. Et il y a un encore plus gros tabou autour de ça qu'autour du viol des femmes adultes. Mais je trouve que le parallèle est intéressant, notamment parce que ce qu'on dit toujours, et moi je sais, je bosse au planning familial et c'est quelque chose qu'on répète beaucoup, c'est que les enfants victimes d'inceste, ils parlent toujours. Il y a toujours un moment donné où ils ont parlé et où on leur a signifié que leur parole n'était pas importante, où on leur a signifié que soit qu'ils étaient des menteurs ou que leur parole ne valait pas grand-chose. Et à ce moment-là, ils vont se taire. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes adultes qui vont subir un viol, elles vont, c'est pas qu'elles vont forcément parler, mais il va y avoir un climat qui va pas être propice à la parole. Et ça, c'est pas de leur responsabilité à elles. Ça, c'est collectivement, on doit réussir à redonner de l'espace à ces récits-là. On doit pouvoir poser des questions, repérer, aller creuser quand une copine nous dit qu'il s'est passé un truc bizarre, qu'il s'est passé quelque chose dont elle est pas trop sûre, etc. Il doit y avoir un espace où ces récits-là peuvent exister. Et ça, je pense qu'on est encore très mauvais. Je pense qu'on n'a pas envie d'entendre. On trouve que c'est peut-être soit trop horrible, soit pas assez. Donc, il y a soit les viols qu'on considère qui ne sont pas assez importants, pas assez spectaculaires, donc on n'a pas envie de les entendre. Et soit les viols qui sont trop spectaculaires, trop horribles pour l'entourage. Et où là, on n'a vraiment pas envie d'avoir le détail non plus parce qu'on trouve ça trop dur. Et ça, je pense que c'est quand même une réaction très, très égoïste face à la violence sexuelle. Pour le coup, pas du tout sororale, ni pas du tout soutenante. Quoi. C'est de rappeler que c'est difficile peut-être d'entendre, mais c'est encore plus difficile de le vivre. Et que là, il va falloir un petit peu faire un effort. Quoi. La sororité, ça demande un effort. Le soutien, ça demande un effort. Et je pense qu'en vrai... moi, je veux dire, on s'habitue à entendre ces récits-là, on s'habitue à trouver des moyens d'évacuer si quelque chose nous a beaucoup touchés. Mais c'est évidemment pas à la victime qu'il faut dire oh, « ça me traumatise ce que tu dis, je crois que je peux pas entendre ça, ça c'est pas possible. Ouais. » Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle les gens ne parlent pas. Hein. C'est pas inné le fait de garder ça sous silence. C'est quand même que, visiblement, l'espace n'est pas fait pour.
Et tu penses que, puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la période post-MeToo, tu trouves que ça a vraiment libéré quelque chose ? On entend tout par rapport à ça. Certaines personnes disent, mais oui, il y a un après, il y a un avant. D'autres personnes, moi, je crois que ça dépend aussi dans quel milieu social on est, dans quel endroit du monde on vit, même en France. Entre à Paris et être dans une petite ville ou un petit village en province, c'est pas non plus pareil. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à ce que tu vois autour de toi ?
Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence. Alors, je pense qu'il y a plus... La première différence, c'est que c'est pas tant que la parole se libère, mais que l'écoute est plus présente. C'est vrai que c'est des récits qu'on écoute plus, parce qu'ils sont là, parce qu'il y a quand même des prises de conscience à force de marteler, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas que MeToo, c'est qu'il y a eu une espèce d'effet boule de neige qui quand même... moi, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de dénonciations, le phénomène des collages aussi. Les collages, il y a des filles qui collent à côté de chez moi, en Haute-Savoie, dans un tout petit bled, ce qui aurait été inimaginable au moment où moi, j'ai grandi.
qui colle. Est-ce que tu peux expliquer pour le... Parce qu'en fait, le podcast, tu sais, il est écouté un peu à différents endroits dans le monde, quelquefois par des gens qui ne sont pas du tout dans les problématiques dont on parle aujourd'hui.
Il y a un mouvement, d'ailleurs pas qu'en France, mais je crois que ça a démarré en France, mais en tout cas de collage féministe, où du coup, l'idée, c'est que des groupes collent d'activistes, collent des messages sur des feuilles, donc écrits en noir sur des feuilles blanches. Et au début, il y en a eu beaucoup à Paris, donc c'est des messages, il y avait « on te croit », c'était beaucoup autour des féminicides. Donc « elle nous manque », à mes sœurs, il y avait énormément de choses comme ça, des collages en hommage à des femmes qui avaient été assassinées. Et puis ensuite, il y a eu aussi beaucoup de collages sur le viol, sur l'homophobie, la transphobie, le racisme. Et c'est vrai que moi, à mon époque, il y avait même pas de tag féministe, je pense, là où j'ai grandi. Et que là, mon père m'a appelé pour me dire que juste à côté de là où on est, il y a des filles qui ont donc collé sur des feuilles blanches « Range ta bite de violeur, j'ai mon sécateur ». Ce que je veux dire n'aurait jamais été possible à mon époque, dans ce mm-hmm. petit village. Et je me suis dit, oui, c'est quand même que les choses changent. Sur la prise de parole dans l'espace public, sur la prise de place dans l'espace public, il y a beaucoup de résistance, ça c'est sûr, mais quand même, il y a un soutien très fort qui est en train de monter quand même. Et j'ai l'impression aussi qu'on parle de plus en plus de sororité, qu'on parle de plus en plus de qu'est-ce qu'on fait quand on voit une fille être en difficulté dans l'espace public, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une collègue dans l'espace public, qu'on a un petit peu compris qu'il fallait arrêter de compter sur les hommes et qu'on pouvait aussi essayer de compter entre nous, quoi.
Et tout le long, on voit que cette émancipation, en fait, c'est la bataille tout le temps hein, avec le doute. Il faut qu'elle gagne sur le doute. Et il y a un petit passage d'ailleurs où tu écris page 27. « Devant la porte, la tension est palpable. Les filles évitent de se regarder, trop effrayées à l'idée que l'une d'entre elles puisse décider de renoncer, de partir sur le champ, de dire à voix haute qu'elles n'y arriveront jamais. Et si les cartes s'étaient trompées, et si les sorcières n'en étaient pas vraiment, trop arrogantes pour entrevoir les failles de leur plan. » Je trouve que ce petit passage, il reflète bien en fait le doute intérieur. Quoi. Il y a la rage, on a envie d'y aller, on a envie de... Bon, on ne va pas tout dévoiler, mais de poser des actes qui peuvent nous apporter une réparation, je parle à leur place. Et en fait, il y a quand même toujours ce doute qui freine.
Oui, et ça, pour moi, c'était important de le faire vivre de manière très explicite, parce qu'il aurait été complètement illusoire et pas du tout crédible de penser que ces filles-là baignent dans la confiance en elles et qu'elles se transforment immédiatement en super-héroïnes et que la vengeance est un acte facile. Mais ça aurait été mentir et ça aurait été être malhonnête. Je pense que c'est justement là où j'avais envie de faire attention, c'est de bien dire, mais elles font ce qu'elles peuvent. Et du coup, bah oui, elles doutent et elles se tiennent ensemble. C'est elles qui elles se tiennent vraiment dans ce collectif-là. Elles se serrent les coudes parce qu'elles doutent moins ensemble. Mais qu'évidemment qu'elles ont peur, évidemment qu'elles sont stressées. Le rapport de force, il prend du temps à s'inverser. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il s'inverse totalement, mais c'est vrai que moi, je suis assez allergique aux récits de vengeance très manichéens où tout d'un coup, cette femme qui a été complètement détruite par un viol très sordide va en ressortir grandie et va tout détruire sur son passage parce que les femmes, elles ont une force incroyable à l'intérieur d'elles. Bon, moi, je crois que ça m'agace. Et par ailleurs, je ne me sens pas très représentée. Je pense qu'un des trucs qui est très difficile, alors ça touche pas tout le monde, hein, mais une partie des personnes qui ont été abusées ou violées, quand même, ce qu'elles en ressortent, c'est la question de la peur. Et la peur, ça peut être très paralysant, d'autant plus que ça vient se coller à cette croyance qu'on nous inculque depuis toute petite, qu'on est moins forte que les garçons et qu'on on fait pas le poids, en fait. Et ça, je trouve ça très... très important de le soulever, quoi, de se rendre compte que ce rapport-là, on l'a beaucoup intériorisé.
D'ailleurs, tu fais dire à Lucie, pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais peur, qu'on ne réplique jamais?
Moi, je crois que ça m'intrigue beaucoup de pourquoi est-ce que les hommes n'ont jamais peur? Pourquoi est-ce que, pour eux, ils n'ont aucun problème à aller faire chier des groupes de 5 ou 6 femmes? parce qu'ils sont persuadés qu'il ne peut rien se passer pour eux. Et ça, moi, je crois que je suis très étonnée de la confiance qu'ils ont et par ailleurs de l'effet que cette confiance a sur nous, hein, parce que c'est comme si elle était transférée. À partir du moment où lui a conscience qu'il a confiance qu'il ne va rien lui arriver, nous, on considère qu'effectivement, on peut rien faire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge beaucoup. Mais c'est un peu, de manière plus anecdotique, la même histoire que l'homme qui vient aborder des femmes dans la rue. Elles sont trois, et il va leur dire, moi ça m'est souvent arrivé, il va leur dire « Alors les filles, on est toutes seules ce soir ?» Ben non, on est trois. mais du coup, elles n'ont pas d'hommes avec elles. Et donc, elles sont seules. Et c'est vrai que des fois, je crois que ça m'interroge beaucoup. J'avais une copine qui faisait beaucoup de stops et qui me disait qu'à chaque fois que les hommes lui disaient, parce que ça lui arrivait souvent, lui disaient « Mais vous n'avez pas peur de faire du stop toute seule ?» Elle leur répondait « Et vous n'avez pas peur de prendre une inconnue dans votre voiture ? Je pourrais être une serial killeuse et vous ne le sauriez pas. » Mmh. Et que ça renversait tout de suite. Elle disait « Ça calme tout de suite. » Et souvent, ça crée une atmosphère où plus personne ne parle. Et ça, je trouvais assez intéressant de renverser ça, de dire « Mais pourquoi vous n'avez pas peur de moi ? Moi, vous ne me connaissez pas, je suis rentrée dans votre voiture, moi aussi, je pourrais vous tuer. » Qu'est-ce qui fait que vous n'y pensez pas ? Et ça, je trouve ça assez intéressant. Mais je trouve oui. que des fois, de renverser un petit peu, même juste dans la parole, ça peut des fois faire du bien. Et c'est vrai qu'il y a plein de filles qui disent... alors, il y a des filles qui vont avoir des récits en disant « Bah, moi, le jour où j'ai répliqué, ça a été une catastrophe. Et voilà, ça a été horrible. » Mais il y a aussi des filles qui vont dire « Mais le jour où j'ai répliqué de manière très simple, j'ai juste dit « Mais ça va pas ou quoi ?» Le gars s'est arrêté parce qu'il n'était pas habitué à ça. Et ça, je pense que l'effet de surprise est assez intéressant.
En discutant, on se laisse aller facilement à dire « les hommes ». Il faut peut-être dire quand même « certains hommes ». Tous les hommes quand même ne sont pas...
Non, mais par contre, moi, je n'ai pas de problème à dire que tous les hommes sont complices au moins de ce qui est en train de se passer. Et la question, elle n'est pas tant est-ce que c'est tous des violeurs ou non. Ça les regarde, en fait. Mais par contre, ils sont tous concernés par ce problème-là. Et ils n'ont pas l'air de visiblement vouloir s'en saisir. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils me disent « Oui, mais moi, je n'ai jamais violé personne. » Tant mieux pour toi. Enfin, je ne vais pas en plus te décerner de médaille. Par contre, moi, j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que tu fais pour changer ça. Je pense que c'est la même question sur la question de l'antiracisme ou comme ça. Il ne suffit pas de dire juste « Oh, bah, moi, je ne discrimine pas les personnes noires. » Non, ben oui, enfin, encore heureux. Mais moi, je suis blanche, j'ai grandi dans un système clairement raciste et bien sûr que je bénéficie de ce privilège-là. Et il faut que je me bouge pour essayer de changer ça. Et les hommes, c'est pareil, c'est pas certains hommes et pas tous les hommes. Moi, je trouve qu'ils devraient mettre plus d'énergie à essayer de combattre le viol et les violences plutôt qu'à essayer de se désolidariser des quelques violeurs en disant que eux, vraiment, c'est pas ça qu'ils ont fait. Moi, je comprends pas pourquoi ils pensent que ça nous intéresse. Enfin, franchement, on s'en fiche, tant mieux pour eux. L'idée, c'est d'avancer un petit peu au-delà de ça, quoi.
Oui, de se mettre en mouvement pour changer les choses, pas de rester passif.
Oui.
Effectivement, quand on est passif et qu'on connaît quelque chose, enfin, ça c'est la même chose après dans tous les domaines, hein. Ça peut être en entreprise, ça peut être que l'on voit, que l'on a conscience, que l'on sait qu'il y a maltraitance ou qu'il y a des choses et que l'on n'agit pas, bon ben, d'une certaine façon, on cautionne quoi.
On cautionne et quand on bénéficie aussi de ces agissements. Quand il y avait eu la Ligue du LOL, là, le scandale de la Ligue du LOL qui était sorti, il y avait eu plein d'autres scandales dans d'autres rédactions et ce qu'on avait vu, c'était pas non seulement qu'il y avait eu des actes de harcèlement et que des hommes n'avaient pas dénoncé, c'était qu'aussi qu'il y avait des groupes d'hommes dans des rédactions qui activement se créaient des solidarités masculines pour pouvoir bénéficier des postes, pour pouvoir avancer eux, en mettant de côté les personnes racisées, les homos et les femmes. Et ça, c'était de manière très systématique, c'était concret, c'était des groupes de discussion entre eux et des moyens d'arriver, eux, à leur fin. Donc, moi, que ces gens-là me disent qu'ils ne sont pas des violeurs, je veux dire, c'est pas mon intérêt. Moi, ce que je leur dis, c'est oui, enfin, là, il y a un bénéfice très fort que tu fais vis-à-vis de ce privilège masculin-là et si tu ne t'en occupes pas, bah, je ne peux rien faire pour toi, ouais.
Parmi ces sept jeunes femmes, donc il y a Lucie, qui te permet de parler de victimes dont les souffrances sont peut-être encore plus que d'autres invisibilisées. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire ce petit extrait ?
Tous les jours, dans son bureau, elle voit défiler les violés, mais les violeurs sont introuvables. ils sont même absents de l'imaginaire. Les filles enceintes disent qu'il n'y a pas de père sur le formulaire de l'organisme qui décide qui sera réfugié ou non, l'OFPRA. Il n'y a pas de rubrique « enfant d'un viol ». Alors Lucie bricole, elle barre « union antérieure » et elle écrit en majuscule « viol ». Elle répète inlassablement que les filles peuvent porter plainte, mais elle n'y croit pas elle-même. Elle a envie de leur dire de se trouver vite une famille, un cercle, parce qu'elles vont être seules face à ça, comme elle l'a été jusqu'à très récemment. Mais elle reste souriante, elle apporte des verres d'eau, elle dit qu'elle comprend en hochant la tête, elle apaise. Mais depuis qu'elle avait revu Mia, l'histoire de vengeance, non de rendre justice, lui trottait dans la tête.
Oui, alors ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant que tu amènes, et on voit que là aussi il y a de ton vécu qui te permet de décrire ça assez précisément, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la situation des femmes migrantes dans tout ça, et pourtant c'est très très présent, et c'est bien d'en parler. Et donc j'imagine que tu as eu des cas, c'est pas juste de la fiction ce passage-là, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ?
Ouais, je pense que du coup dans le cadre de mon travail, c'est pas juste des cas que j'ai eu, c'est un quotidien pendant plusieurs mois, voire plus d'une année. Donc ça veut dire que le viol était devenu presque banal. Nous, ce qu'on notait par exemple pour les statistiques, pour les enquêtes, c'est de savoir si le viol s'était passé en France ou sur le chemin de l'exil. Mais c'était très rare que je rencontre des femmes qui n'avaient pas été violées. Et je pense que... Alors moi j'étais dans une structure que je trouvais très chouette, qui proposait un accompagnement psy, etc. Mais... pour moi, il y avait vraiment un espèce d'angle mort qui était comme si la société trouvait ça presque... Oui, bah elles, c'est vrai qu'elles ont été violées sur le chemin de l'exil et bon, bah ça fait partie du lot. Mais comme si le traumatisme n'était pas tout à fait le même. Qu'on considérait qu'elles étaient plus fortes que ça. Qu'elles étaient... en tout cas, que c'était quelque chose auquel, je ne sais pas, elles auraient été habituées ou j'en sais rien. Il y a un processus un peu d'altérisation. C'est des femmes migrantes, des femmes racisées. Elles sont pas comme nous, etc. Et c'est vrai que je trouve que, du coup, il y a un manque d'empathie très fort face à des femmes qui arrivent dans des contextes de vulnérabilité assez forts, qui se retrouvent à souvent être hébergées parce qu'elles n'ont pas de place d'hébergement. Elles se retrouvent à être hébergées par des hommes qui les violent de manière assez répétée. C'est soit ça, soit la rue, ou si elles dorment à la rue, mais ça, c'est, pour le coup, c'est pas juste les femmes migrantes, c'est toutes les femmes qui dorment dehors, racontent un nombre de viols incalculables, qui a pas l'air non plus de d'émouvoir tant que ça les pouvoirs publics. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on voit assez vite, quand on travaille dans le social, que une femme qui a un appartement, qui travaille, qui est française, qui dit bah voilà, je suis en couple avec mon mari, il est violent. Bon, il y a des systèmes pour faire sortir ces femmes-là. Alors ils fonctionnent pas très bien, il y a pas assez de moyens, mais en tout cas ils existent. Ces systèmes-là, ils vont pas fonctionner pour une femme qui a pas de papier, qui dort chez un hébergeant qui la viole tous les soirs. Ça va être compliqué. Et ça, c'est pas juste une position politique que j'ai, c'est juste un constat du quotidien que j'avais pendant longtemps au travail et qui, je pense, est très lourd en fait d'être entouré par ça, d'être entouré par ces femmes à qui on peut rien dire d'autre que il faut appeler le 115, il faut voir. On n'a pas tellement de solutions à ça. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on considère un peu que c'est un peu un dommage collatéral à la migration. Et quand on y pense, c'est absolument atroce d'imaginer que le viol serait finalement quelque chose qui peut arriver, un risque un peu collatéral quand on migre. Par ailleurs, le viol pendant le parcours d'exil touche aussi les hommes. C'est vraiment pas quelque chose, je trouve, qui est pris assez au sérieux de l'impact que ça peut avoir sur la psyché, sur ces personnes-là.
Ce qui est intéressant là depuis quelque temps, c'est que de plus en plus de jeunes femmes, surtout, prennent la parole, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, par la littérature, et permettent d'enrichir ces angles de vue et de créer aussi des mises en mouvement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, puisque tu as eu des retours concrets de ça. Donc, félicitations.
Merci beaucoup.
Et je te remercie pour cette discussion et d'avoir développé tout ça de façon si riche et si intéressante. Est-ce que tu as déjà des idées pour tes prochains livres ? Pour l'instant, tu te consacres à faire vivre celui-ci
Non, je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est qu'il fallait continuer à se projeter sur le prochain quand la promo du premier était en marche, pour essayer de de continuer vers l'avenir. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien écrire encore sur la question de la sororité, mais peut-être pas forcément centré autour du viol, quoi. J'ai envie d'écrire sur ce qu'est l'amitié, mais dans un contexte un peu plus apaisé.
Eh bien, merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Marcia Burnier. Ouais. Pour Les Orageuses, aujourd'hui on parlait de Les Orageuses aux éditions Cambourakis, premier roman de la collection Sorcières chez Cambourakis. Il y a déjà eu d'autres ouvrages, mais c'est le premier roman, donc j'espère aussi pour eux qu'il sera suivi d'autres, et pour nous, lecteurs, lectrices, vraiment félicitations, et puis bonne continuation.
Eh ben, merci encore à toi.
J'espère que nous aurons l'occasion de rediscuter, d'approfondir tout ça à l'occasion de la sortie de tes prochains livres.
Oui.
Je vais mettre le lien dans la description, chers amis qui êtes en train de nous écouter, dans la description du podcast, que vous soyez sur le site sosuiteplanète.com ou sur une application de podcast. Vous pouvez cliquer sur la description du podcast. Je vous mettrai un lien pour pouvoir acheter directement le livre de Marcia Burnier. Merci Marcia. Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.